Nulla dies in linea. Pas de jour sans une seule ligne. Ni aucun jour sans un podcast. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes de retour en direct et en public depuis l'Almacène. Donc effectivement, j'ai omis de mentionner le fait que nous sommes non seulement en direct mais en public et que du coup l'émission se situe à l'Almacène, qui est une petite salle très sympathique qui se trouve au cœur des grottes, précisément au 6 rue des grottes, et que donc à tout moment, eh bien, les gens peuvent arriver et pourquoi pas intervenir. J'avais oublié dans le sommaire de l'émission de le faire comme je le fais habituellement, c'est-à-dire en lisant le texte de la newsletter. Alors je vais le faire quand même, parce que pour archive quoi. Phalanstère. Non, parce qu'en plus, on m'a embêté avec ça. Donc, voilà. Phalanstère, ça, c'est le titre. Nos six petites mains, insuffisantes pour la belle mais longue ouvrage qu'il nous reste à mener, ont omis de rédiger ce billet avant, donc la newsletter. C'est avec regret que l'on ne puis dès lors annoncer la mise à disposition des podcasts de la dernière rencontre du Signal 8. Ça, c'est important, puisque Libre Radio, via Onda Lissi, eh bien, s'associe aux rencontres du Signal 8 et qu'à chaque fois, de manière au moins mensuelle, mais là, ces derniers temps, c'était hebdomadaire, il y a des causeries avec des invités extrêmement intéressants qui viennent à Signal 8. Et celle de vendredi soir, eh bien, a été consacrée à la centrale sanitaire suisse romande, dont il faut rappeler que la fondation suivit la solidarité internationaliste à l'endroit des républicains espagnols en 1937. Elle a été montée, cette centrale sanitaire suisse, pour venir en aide aux blessés de la République espagnole. Ça veut dire que des gens ici en Suisse, des médecins, des infirmières et puis la société civile en général, s'est regroupée, alors que c'était vraiment interdit, sans blague, pour collecter du plasma, du sang, du matériel médical et pour ramener tout ça en Espagne. Donc c'est, voilà, on souhaitait saluer évidemment tout ce qui a été fait. Il faut savoir que la centrale suisse ensuite a dormi un moment. Elle s'est réveillée au moment du Vietnam, de la guerre du Vietnam, pour là aussi faire pareil, ramener du matériel au Vietnam, du matériel médical. Et puis que par la suite, eh bien, actuellement, elle mène des projets notamment autour du handicap et de la réinsertion par la communauté au Salvador, en Amérique latine en général, et elle fait de la sensibilisation ici en Suisse, à Genève. Voilà, donc ça c'est un podcast qui sera disponible dans quelques jours sur le site de Libre Radio, www.libradio.org. Le samedi, c'est aujourd'hui, eh bien, il y avait en théorie la préparation de la banderole pour la manif Malagnou restera, mais a priori on ira quoi à la manif comme ça, les mains vides, mais c'est pas grave, on ira avec un enregistreur. Et puis demain, la Bibliothèque du Peuple, site des grottes ici au 5 bis rue des Amis, eh bien, on appelle à un grand dépoussiérage et une remise en route opérationnelle. Ce sera dimanche de 14h à 18h, la permanence de la Bibliothèque du Peuple, tout en sachant que sur le site dédié, il y a également maintenant la collection du bus cartouche, hein, qui est disponible, avec la programmation du bus cartouche dans lequel il y a une extension de la Bibliothèque du Peuple. Et puis encore dire que dimanche matin, nous irons avec un petit enregistreur aux rencontres artistiques Verniolane. C'est à Vernier, à la salle communale de Vernier, où là, une vingtaine d'artistes contemporains se réunissent pour présenter leurs œuvres. Et ça, nous, on aime bien aussi. Phalanstère, pourquoi ? Eh bien, parce que c'était... Alors, qu'est-ce qu'un phalanstère ? Ça désigne une combinaison d'infrastructures utopistes, hein, du logement aux choses communes, collectives ou individuelles, dont Charles Fourier fut l'initiateur. Donc c'est vraiment un géographe utopiste, hein, Charles Fourier. Et c'est partie des propositions de banderoles pour la manif que l'on souhaitait faire, peindre ici à l'Almacène. Alors l'idée c'était de faire « Nous voulons des phalanstères, pas des facochères, contre l'urbanisme morbide, Malagnutopia restera ». Voilà, comme ça c'est dit, même si on n'a pas la banderole, eh bien le petit slogan sera archivé. Voilà pour la présentation et pour la lecture de cette newsletter hebdomadaire. Johan, bienvenue à toi. Merci de nous consacrer du temps, puisque tu es ensuite au boulot pour justement préparer un petit peu tout ce qui est logistique concernant la manif.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une journée de manifestation, de sortir dans la rue et de se réapproprier de l'espace public. C'est bien ça de ce qu'il s'agit cet après-midi. Et oui, passionné pour pouvoir participer avec les étudiantes, avec l'organisation d'un bloc étudiant. Donc s'il y a des étudiantes et étudiants qui nous écoutent, à 15h30 devant l'espace autogéré du Nimaï, on va partir toutes ensemble vers ici, 22 cantons.
Ah d'accord, donc c'est un cortège qui viendra depuis, j'imagine, le Nadir là-devant, jusqu'ici.
Exactement.
D'accord, et puis alors il y a déjà des petites choses de préparer, quelques slogans, quelques chansonnettes.
Oui, bien sûr, il y a des slogans, des chansons qui ont été préparées, on a fait des affiches et des banderoles. On a réussi hier à se coordonner pour réussir à faire tard le soir, d'accord, mais on a pu faire une banderole. Et surtout en pleine coordination avec les camarades de Malagno qui apparemment ont monté un karaoké pendant la manifestation. Donc on a aussi collaboré en essayant d'exprimer toute notre créativité pour les paroles de cet après-midi. On va voir comment ça se passe.
C'est assez sympa, je trouve, cette manière de manifester dans une sorte de joie et de bonne humeur dont l'idée est vraiment de rassembler et de convoquer les gens, de les inviter à participer à la manifestation ou à tout le moins à s'intéresser aux arguments qui sont proposés.
C'est clair, je pense, ça c'est très personnel, mais aussi c'est une réflexion que peut-être on partage au sein de la CES, que le droit à la ville, le droit au logement, l'extension du droit à la ville, ben, c'est une thématique actuelle qui va donner beaucoup de jus, beaucoup de mobilisation dans les mois qui suivent, parce que c'est une problématique qui n'est pas seulement ici à Genève, mais qu'on retrouve partout dans le monde. C'est aussi une revendication très à l'international, et que justement, ben, une manifestation comme celle de cet après-midi, mais comme celle aussi qu'on a réalisée en juillet, ça faisait des années qu'on voyait pas des syndicats, des collectifs autonomes, des collectifs organisés à travers des centres sociaux, culturels, sportifs, des partis politiques aussi, il faut le dire, qui peuvent se rejoindre sur une cause commune dans la rue.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une convergence qui est assez inédite. En tout cas, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu ça ici à Genève. On va le rappeler peut-être, la CUAE, c'est donc la Conférence Universitaire des Associations d'Étudiants. Donc c'est une fêtière qui regroupe, je ne sais pas combien d'associations d'étudiantes, mais
Quarantaine. C'est aussi un syndicat. On a aussi une approche absolument individuelle, parce que les étudiantes et étudiants, parfois ils ne le savent pas, mais ils ont des droits d'être syndiqués et d'être représentés par quelqu'un à des instances rectorales et aussi politiques.
Et alors, juste la petite parenthèse concernant la CEA, où est-ce que justement la CEA en est dans ces revendications? Est-ce qu'on y trouve une cohérence, une cohésion, une unité, disons, ou est-ce qu'il y a quand même des dissensions à l'intérieur? Comment ça se passe en ce moment?
Tout début, il faut comprendre que le mouvement étudiant est un peu comme, il faut imaginer les étudiants comme des vagues, comme des cycles. Donc tu as des creux, tu as des moments d'expression activiste vraiment, vraiment latente. Et c'est vraiment, les mouvements étudiants, ici, surtout ici à Genève, mais partout en Europe, fait face à des cycles, à des hauts et des bas. On était en 2008 lors de l'opposition au plan Bologne. C'était vraiment un moment de grosse mobilisation au sein de l'université. Et après, il y a eu... un creux, on va dire, de mobilisation à partir de la post-crise de 2008 jusqu'à nos jours. L'année dernière, on peut dire que ça a été un peu cette sorte de renaissance de la CUAE, mais pas que, aussi des mouvements, des différentes organisations étudiantes au sein de l'Université de Genève, sur deux, trois aspects. Le premier, la question du féminisme, la question de l'harcèlement sexuel qu'on retrouve, qui a toujours existé, mais qui maintenant fait face à une contestation de la part d'étudiantes qui s'organisent. On a organisé l'Assemblée féministe universitaire avec des différents collectifs sur cette question-là l'année dernière. On a rempli tout un auditoire d'Unimail. Il y a plein d'actions qui s'organisent autour de ça. Et le deuxième point, c'était que l'année dernière, il y a eu la tentative du rectorat d'augmenter les taxes universitaires. Bon, les taxes universitaires, les universitaires, pour être plus précis, c'était les taxes d'inscription à l'université, chose qui a fait aussi l'organisation collective et un peu cette envie de créativité pour pouvoir passer à l'action, différentes mobilisations, manifestations entre autres, qui a fini avec l'occupation du rectorat en décembre de l'année dernière, qui a été très éphémère parce que le rectorat, vers minuit, s'est amené au sein de Unidufour pour pouvoir négocier les termes, pour pouvoir arrêter l'occupation. Notre strict minimum était clair, c'était le retrait de cette mesure. Et on a gagné.
Et on le salue. Très bien, très bien.
Donc oui.
Bravo. Donc c'est, voilà, on peut dire que la CUAE a le vent en poupe, quoi qu'il en soit.
On espère que cette année, avec toutes ces thématiques-là, mais aussi sur la question du logement, on va pouvoir encore plus se développer comme un poulpe, développer nos tentacles, pour pouvoir être partout, tout le temps. Et soudé.
C'est très bien. Alors voilà, nous allons aujourd'hui parler, enfin toi tu viens avec deux casquettes aujourd'hui, hein. Nous allons d'abord parler de l'affaire entre guillemets Barroso, puisqu'elle a ses derniers rebondissements datent de lundi passé, me semble-t-il. Mais on va rappeler les faits, et puis ensuite nous parlerons de la Catalogne et effectivement de cette potentielle, pourquoi pas, annonce d'indépendance qui pourrait venir lundi prochain. Commençons avec l'affaire Barroso. Donc on le rappelle, c'était en mai 2015, hein, des étudiants avaient manifesté suite à la nomination de José Manuel Barroso, donc qui est l'ancien président de la Communauté européenne, de la Commission européenne, et qui venait en tant que professeur invité à la faculté des relations internationales ici à l'université de Genève. Mm-hmm. Alors un petit groupe d'étudiants s'était mobilisé, dont tu faisais partie, mm-hmm. et puis il y a eu une répression, enfin il y a eu une réaction assez vive, dont tu vas peut-être nous rappeler les quelques faits.
C'est ça, donc comme tu as bien mentionné, il y avait la venue de ce monsieur et des étudiants critiques à l'université. On s'est dit ben, que c'était pas intolérable le fait de lui donner un microphone parce que, ou d'organiser une conférence avec lui, parce qu'on a toujours plein de personnages assez incroyables qui viennent donner des conférences à l'université de Genève. Mais c'était surtout le fait que la faculté de relations internationales se vantait et mettait à la une était rempli d'orgueil du fait que ce monsieur était professeur honoraire invité et voilà, et surtout sur les termes dont la nomination a été faite, aucun étudiant a été consulté, personne sait combien ce monsieur a gagné, combien il a empoché pour cette semaine ici à l'université, et on trouvait qu'il y avait un manque de transparence entre autres. Le fait c'est que justement on a organisé peut-être un rassemblement qui s'est fait après en analysant avec beaucoup d'erreurs, très fait à l'arrache, sans organisation peut-être. Il faut assumer aussi parfois quand les actions ne sont pas concrètes, ne sont pas été organisées comme il faut. Mais quand même, aussi, il faut dire, c'était un matin, les étudiants n'étaient pas là, donc c'était un peu difficile de mobiliser. Mais en tout cas, on était 6, 7. Comme vous pouvez bien imaginer, on peut difficilement croire un problème pour la sécurité ou pour la...
Vous n'étiez certainement pas une menace.
Justement, ouais. Si on était 6 ou 7, quand on a juste pénétré dans le hall de l'ancienne école de médecine qui se trouve rue d'école de médecine, juste avant le pont, le fameux pont là de la marque de montre qu'on ne va pas faire la publicité. Et rien, on est rentré sur le parvis, dedans, dans le hall, et on a juste distribué quelques tracts et crié quelques slogans. Quand nous sommes sortis justement des portes de l'école de médecine, une patrouille de la police politique, qui était en civil d'ailleurs, a mis une amende à deux d'entre nous et a menotté un d'entre nous et l'a amené au poste de police. Les amendes étaient de 450 francs respectivement pour scandale dans la rue publique et manifestation non autorisée. Chose qui est un peu... bon, voilà, les termes de la police. Voilà, et à partir d'ici, un d'entre nous ne voulait pas, pour des motifs XY qu'on respecte, à payer l'amende et a voulu arrêté jusque-là, et l'autre personne a essayé de faire recours, à cette décision. Et on se retrouve alors, une année après, le lundi, au tribunal vers Champoulet. Non, Champoulet, je pense, vers Rives. Là où il y a le poste de la police, là-bas, vers Rives, je ne sais pas comment ça s'appelle.
D'accord.
Rue des Chaudronniers, c'est ça.
Rue des Chaudronniers, d'accord. Et alors, peut-être rappelons en quoi le personnage Barroso est-il controversé. Alors, effectivement, on sait qu'il était président de la Commission européenne. Il était également, c'est un stipendier de la banque Goldman Sachs, dont on sait que les collusions sont très importantes. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, en termes éthiques hein, notamment, on peut imaginer que l'Université de Genève aurait pu un petit peu faire attention et en tout cas, effectivement, consulter autour d'elle avant ce passage en force, disons, avec cette espèce de velléité de célébrité en disant, voilà, on a un personnage peut-être connu médiatiquement, on veut du coup nous associer à cela, alors qu'effectivement, des zones d'ombre, des zones troubles apparaissent dans le parcours de ce monsieur.
C'est ça. Il y avait trois ou deux, bon, deux faits que ce monsieur a réalisé lorsqu'il avait des postes de responsabilité qui nous tenaient à cœur de protester. Le premier, c'était en 2003 ou en 2004, je ne sais plus. En 2003, entre 2003 et 2004, la tenue de sa part du sommet des Açores avec Monsieur Bush, Monsieur Blair, Monsieur Bush, ancien président des États-Unis, Monsieur Blair aussi premier ministre britannique, et Monsieur José María Aznar, ancien président de l'État espagnol, pour organiser l'intervention illégale, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU aussi qui l'a jugé ainsi, en Irak, qui a causé, comme vous savez, des milliers de victimes civiles et militaires, et qui peut-être que peut-être maintenant les morts qu'on pleure ici en Europe ont aussi des explications même à ce qui s'est passé, à ce que ces trois dirigeants ont décidé de faire. Donc M. Barroso, il a été complice sur la tenue de ce sommet. Donc c'était notre première... et bien sûr, il y a toutes ces morts civiles et militaires sont encore là avec toute impunité. Et malheureusement, aucun des quatre messieurs n'a jamais mis le pied sur un tribunal pour cette affaire-là. Donc totale impunité pour ces gens-là qu'on voulait dénoncer. Point numéro 2, c'était les politiques d'austérité qu'a connu l'Union européenne suite à la crise de 2008, dont lui était un ferveur défenseur de l'austéricide que les peuples, surtout du sud de l'Europe, ont souffert. Et le troisième point, mais qu'on ne pouvait pas démontrer par des faits concrets, c'était la vox populi des intérêts, de l'intérêt de M. Barroso avec des grandes holdings, des grandes multinationales dans le secteur privé, banques, milieux financiers. Ce troisième point, l'histoire nous a donné la raison, que dirait Fidel Castro, et quelques mois après, il y a eu l'affaire Goldman Sachs qui est sortie publiquement, et c'est alors que l'Université de Genève a dû renoncer au renouvellement de contrat de ce monsieur. Donc on a eu une sorte de petite victoire, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'était les trois motifs principaux à lesquels on s'opposait.
Voilà, et puis on le rappelle, en 2010, l'Université de Genève lui décernait le titre de docteur honoris causa, dont on sait également, le sieur Barroso, qu'il a participé également à la création de l'agence européenne Frontex. Dont on ne dénoncera jamais assez les méfaits en Méditerranée, avec cette espèce d'Europe forteresse complètement absurde. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Lundi passé, le tribunal de police siégeait exceptionnellement, justement, là, au Glacier Drive. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été la décision ? Quel a été le verdict ?
C'était assez marrant. Bon, le verdict, c'était... On peut déjà commencer par la fin. C'était l'acquittement. Donc à partir d'ici, on peut juste avoir une réflexion commune,
ouais, absolument.
En ayant un peu cette charge parfois, on peut la laisser de côté. Ouais. Le fait c'est que voilà, on s'est amené 10 étudiantes aussi, collègues de la personne qui était interrogée, qui était jugée, de la CEA, chose qui a fait un peu la stupeur des policiers qui ont dû habiliter une autre salle vu qu'on était si nombreux, on était juste 10 personnes, c'était pas non plus, mais vu qu'ils avaient prévu une petite salle pour ça, ils ont dû habiliter la plus grande salle qu'ils avaient, et c'était assez marrant, on était juste là assis avec les avocats, monsieur Peter et maître Roux, qui viennent d'ouvrir un cabinet d'avocats ici à Genève, très, très chouette, ouais. Et qui ont fait un gros travail surtout sur des questions anti-REP, entre autres la victoire du Canet-Canet il y a quelques semaines. Bon, et rien, on voulait, l'objectif, entre autres, c'était aussi justement sur traiter la question du fond, non, que comment l'université peut permettre cette contrainte à la liberté d'expression, cette contrainte au droit de manifester de ses étudiantes, et peut regarder ailleurs quand il y a un de ses étudiants qui se fait juger auprès des tribunaux de la police. Ce qui s'est passé, c'était assez marrant parce qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est que dans les objections, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas juriste, mais je pense que c'était dans les objections préliminaires, c'est-à-dire juste avant de commencer le tribunal en soi, quand M. Peter a commencé à développer la position de la défense, Madame la juge a juste dit que c'était une affaire qui allait se régler très vite, du simple fait que la police s'était trompée au moment de faire l'acte de signer l'acte expliquant les faits, Et dans sa description des faits, la police avait au début signalé que les événements étaient à 9h15. Et vers la fin du même fichier, la police rappelait que ces actes étaient commis à 9h45. Donc ici, il y avait juste un défaut de forme. On s'est rendu compte jusqu'à quel point la police, elle est pas capable de rédiger un simple archive. Et justement, bon, après, il faut dire qu'il y avait aussi une claire intention de la part de la justice, peut-être, de ne pas vouloir rentrer sur des questions de fond, où ça aurait été un peu plus délicat de défendre parce que du simple fait qu'on ne peut pas pénaliser quelqu'un pour avoir participé à une manifestation illégale. Donc, ils ont préféré de balayer l'affaire en faisant recours à une question de forme que rentrer sur des questions de fond, ou peut-être ça aurait été intéressant de voir quelle était la position, et ça aurait marqué aussi un précédent pour les futurs cas.
Absolument. Alors donc voilà, le verdict est tombé, c'est l'acquittement, donc cette affaire est finalement réglée d'une certaine manière. Il en reste que va-t-il se passer à l'université? Est-ce qu'on a des garanties que le rectorat sera désormais un peu plus attentif avant d'inviter n'importe qui à n'importe quoi et avant de distribuer d'une manière un petit peu pour le moins suspecte ces titres ici et là?
C'est ça, donc à partir d'ici découle de réflexions, bon, plusieurs réflexions que nous avons fait et que nous allons essayer de thématiser. La première, c'est bien sûr au sein de l'université, essayer de continuer à avoir au moins une participation directe et conséquente, pas seulement consultative, c'est-à-dire aussi décisive des étudiantes dans la venue de professeurs en tant que professeurs invités ou autres, qui est parfois déjà fait lorsqu'il y a la nomination de nouveaux professeurs ordinaires ou autres, mais que justement ces sortes de cadres un peu hors ex-cathédra que sont les professeurs invités, pouvoir avoir une présence beaucoup plus conséquente. Et point numéro 2, justement inciter à l'université de Genève de prendre position par rapport à ces faits-là. On va voir dans les prochains jours comment on va organiser cela. Et point numéro 3, c'est un peu plus en extension. C'est pas que l'université de Genève, c'est un peu en extension. On faisait une réflexion collective et générale sur qu'est-ce qui se passe à Genève par rapport aux mouvements sociaux. C'est cette volonté systématique de la police et aussi d'une partie du Conseil d'État de vouloir intimider toute manifestation qui est un droit, hein, est un droit, faut le rappeler toujours, est un droit de la population civile. Donc cette volonté d'intimider de la part de la police toute action qui se fait de protestation, de contestation, à travers amende pour n'importe quelle raison. Et on voit bien qu'ils s'en fichent, ils s'en foutent si cette amende ou si ce problème est bien fait ou pas, s'il aura, je veux dire, c'est pas une question de fonder une amende ou une amonestation avec des critères clairs et nets, c'est juste mettre des amendes et des amonestations juste pour faire peur et pour persécuter la dissidence, quoi.
C'est ça, là, une forme de censure administrative, de censure à la sanction financière. On sait que les populations étudiantes sont par ailleurs évidemment un peu précarisées par rapport à ça, donc c'est évidemment là où on sent qu'il y a vraiment une volonté de faire taire des mots, en tout cas. Qu'en est-il des profs? Est-ce que certains d'entre eux se sont mobilisés, se sont-ils déterminés par rapport à ce qui s'est passé? Parce que j'entends bien que la CUAE, en tant qu'effectivement que syndicat, et puis en tant que lobby d'une certaine manière, qu'au groupe en tout cas de personnes conscientes, eh bien, fasse des communiqués et invite l'université à réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi. Mais du côté des professeurs, est-ce qu'il y a eu quelque chose, ou est-ce que vous vous attendez? Enfin, y a-t-il eu quelque chose ou pas? Et est-ce que, du coup, à l'avenir, vous vous attendez quelque chose de leur part?
Alors, non, il n'y a pas eu de réaction, il faut être clair et net, de la part des profs. Ou s'il y en a eu, ça a été plutôt d'une façon informelle, avec les collègues profs assistants, surtout, qu'on connaît bien. Mais il n'y a pas eu une prise de position explicite et publique. Chose que, voilà, on regrette et que ça sera à apprendre et à travailler pour la prochaine fois. Parce que bien sûr, ça amène du poids à la question. Et voilà, bon, aussi, c'est très intéressant comment, pour ce cas-là, mais aussi pour d'autres questions sur, qu'on ne va pas rentrer maintenant en détail, mais nous avions dénoncé aussi des partenariats entre l'Université de Genève et des universités sur des territoires occupés en Palestine, des universités israéliennes. Ben, il y a toujours l'argument qui est sorti de la part des instances rectorales, mais aussi beaucoup de professeurs sur la question de la liberté d'expression, de la liberté académique. Et c'est justement ici tout un débat, tout un travail qu'il faudra faire, qu'il est déjà fait, mais qu'il faut remettre en vogue sur qu'est-ce que c'est la liberté académique, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression, non ? Parce que c'est vrai qu'il nous accusait à nous de vouloir contraindre la liberté d'expression de M. Barroso, mais jusqu'à quel point, justement, la liberté académique n'est pas un terme abstrait, et n'est pas un terme comme ça qui vole dans des idéaux abstraits, mais c'est quelque chose de très concret, et que justement, faut vraiment voir à quoi... Genre, voir concrètement qu'est-ce que la personne dit, est-ce que ses paroles justement ne sont pas contraignantes à une liberté d'expression, à une liberté de droit de beaucoup, de toute une partie de la population de l'Europe, du monde, de Genève, que sais-je, et que justement clarifier ces notions de liberté académique, de liberté d'expression qui sont un peu abstraites parfois.
D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions concernant cette affaire qui, comme on l'a vu, est finalement maintenant réglée, en tout cas pour le moment. Et puis on reviendra, on sera attentif, bien entendu, aux prochaines nominations et aux prochains événements qui toucheront le rectorat de l'Université de Genève. Nous allons faire une petite pause musicale et puis, à moins qu'il y ait une question parmi nous, on y va comme ça, donc ça veut dire qu'on a été relativement exhaustif, c'est bien. On va faire une petite pause musicale et puis on reviendra pour parler également de la Catalogne avec l'actualité de la Catalogne, les velléités d'indépendance de cette région. Et puis si on retrouve, on redonnera le nom effectivement de, à moins que Johan tu le saches, mais moi dans ma mémoire malheureusement fait défaut, mais effectivement l'étude d'avocat de Maître Peter, hein, qui est une étude solidaire un petit peu dans l'idée de ce que faisait un temps l'avocat bayonnais également.
Interdroit, je pense.
Ah, c'est bien possible que ce soit interdroit. Parce que j'essayais de le chercher pendant que tu... Parce qu'on l'a cité récemment. On va également citer, pour information, et c'est exactement ça. Bravo, belle mémoire. Interdroit, il y a un site internet qui est le suivant, www.interdroit.ch. Je lis la première page. Située au cœur de Genève, Interdroit est une étude d'avocats multidisciplinaire et engagée. Ses associés interviennent particulièrement dans le domaine judiciaire devant les tribunaux suisses et à la Cour européenne des droits de l'homme et pratiquent en français, espagnol, anglais, italien. Donc ça, c'est bon à savoir. Interdroit.ch. Et puis nous, ça nous permet, puisque dimanche passé, nous recevions la permanence juridique des étudiants, de rappeler également qu'ils font un travail. Alors, eux ne sont pas des avocats, ils sont encore étudiants. Mais par contre, on peut les consulter de manière totalement gratuite pour tous les sujets que l'on veut. Il y a des permanences pour ceci. Justement, ils interviennent depuis la maison de quartier de la Jonction, c'est rue Sainte-Clotilde. Alors, je n'ai pas toutes les infos en tête, mais on retrouve ça sur le podcast qui est maintenant publié, donc le site de libradio.org. Et le site internet, c'est pje-ge.ch. C'est la permanence juridique des étudiants à Genève. Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on revient pour parler de la Catalogne. On y va avec les Berruriers Noirs. Du vintage, c'est super. Macnovchina, c'est les Berruriers Noirs. Nous sommes ensemble encore un moment jusqu'à 16h30 environ et ensuite ce sera Manif pour tous.